Le journal, Charlotte Piret. Bonjour Charlotte.
Bonjour, bonjour à tous. Moins de moyens, donc moins d'actions possibles. La triste équation du planning familial qui dénonce des baisses de subventions jusqu'à 30% dans certains départements. Steve Canisso est bien mort noyé dans la Loire. Cette question-là a trouvé une réponse. Reste toujours celle liée à l'intervention de la police cette nuit-là. Dans l'actualité du jour également, par ici la Monnaie, les étudiants infirmiers dénoncent les frais d'inscription illégaux dans les instituts de formation. Débat des candidats démocrates à l'investiture américaine tout en ronde jambe et amabilité. L'apprentissage de la parole, ça se passe dès la grossesse, nous révèle une étude autrichienne. Et puis la ruée vers la Normandie, ses plages et surtout sa fraîcheur en cet été caniculaire.
Et puis à 7h50, donc notre invitée, Nathalie Dessay, sera sur la scène du festival de Ramatuelle dimanche prochain. Elle jouera la légende d'une vie de Stefan Zweig. Question à Nathalie Dessay sur sa passion désormais pour le théâtre, la musique, elle a oublié l'opéra. Elle nous en dira plus, 8h-10 sur France Inter.
France Inter. L'accueil des femmes victimes de violences, de celles qui souhaitent pratiquer un avortement, l'éducation à la sexualité ou la prescription de contraception, gratuitement, anonymement, sans rendez-vous. Vaste champ d'action que celui du planning familial qui va peut-être devoir être réduit. C'est une information France Inter. Plusieurs centres départementaux du planning familial dénoncent des baisses de subventions de l'État. 10% en moins dans le Cantal, l'Ardèche ou l'Isère, jusqu'à 30% ailleurs, Rémi Brancato.
30% de baisse de la subvention de l'État, 43 000 euros en moins. L'annonce au cœur de l'été passe mal pour Fanny Lelong du planning familial du Rhône, d'autant que l'enveloppe finance des actions éducatives et de prévention.
Nous allons être obligés d'arrêter des partenariats avec des établissements scolaires et éventuellement de réduire nos plages d'accueil sans rendez-vous pour notamment les femmes en demande d'IVG, en demande de contraception et les femmes victimes de violences. C'est totalement contradictoire avec les priorités qui sont affichées. Et quand on passe notre année à répondre déjà non à des établissements scolaires, c'est d'autant plus inacceptable.
Et cette baisse touche presque tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ce qu'assure la présidente régionale du planning familial, Françoise Laurent.
Notre région est fortement frappée. On nous a même prévenu qu'on risquait d'avoir une baisse de l'ordre de 50 à 60% sur 10 ans. Et cette année, moins 9,5% ou moins 10% par rapport au crédit qu'on a touché l'année dernière en 2018.
Le cabinet de la secrétaire d'État Marlène Schiappa assure que les crédits de lutte contre les violences conjugales augmentent de 25% dans la région, 2,7 millions en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais la direction régionale aux droits des femmes qui répartit cette enveloppe ne nous a pas répondu. Et pour le planning familial, c'est un montant global qui ne détaille pas le budget dédié à ces actions.
La baisse des subventions du planning familial, c'est aussi à retrouver sur franceinter.fr. Quand une question remplace l'autre à Nantes, ce n'est plus où est Steve. C'est bien le corps du jeune homme de 24 ans disparu lors de la fête de la musique qui a été repêché dans la Loire. Désormais, c'est que s'est-il passé et même qu'a fait la police. Car le rapport de l'IGPN dévoilé par le Premier ministre lui-même hier n'établit pas de lien entre l'intervention contestée des forces de l'ordre et la noyade de Steve Canisso dans la Loire. Mais on laisse beaucoup sur leur fin, à commencer par maître Cécile de Oliveira, avocate de la famille du jeune homme.
Ce rapport a des conclusions qui sont évidemment décevantes. C'est un rapport qui est fait dans l'urgence et c'est un rapport qui n'a rien à voir avec le sérieux et le temps d'instruction qui va être donné à la justice pour examiner s'il y a un lien de causalité entre l'intervention policière et la mort de Steve Maya Canisso. Je prends ces conclusions avec réserve, avec prudence. Elles doivent être complétées. Elles sont peut-être relativement hâtives et j'ai confiance dans la manière dont la justice va mener son enquête d'une façon indépendante.
Affaire d'État dénonce déjà certains, affaire judiciaire en cours rétorque les autres depuis l'ouverture hier d'une information judiciaire pour homicide involontaire. Une enquête qui devra décortiquer cette intervention de police en deux temps, l'usage des bombes lacrymogènes, le barriérage mis en place sur le quai mais pas jusqu'au bout. Il faudra visionner ces vidéos sur lesquelles on entend des manifestants hurler aux forces de l'ordre qu'il y a la Loire derrière. Une enquête dont Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police, veut attendre les résultats. On verra alors si des fautes ont été commises.
S'il y a eu faute, elles devront être sanctionnées à la hauteur de la gravité des fautes. On doit être exemplaire, on doit montrer que la police nationale sait reconnaître ses responsabilités et les assumer, mais à contrario, si l'enquête démontre que la police n'a pas du tout de lien avec ce qui s'est passé dans le décès de Steve. J'attends également, au nom de mon organisation syndicale, que ceux qui aujourd'hui stigmatisent et pointent l'intervention de police fassent leur excuse publique.
Denis Jacob d'Alternative Police au micro de Sophie Parmentier. Sommet de payer pour étudier, les étudiants en infirmerie dénoncent la hausse des frais de scolarité réclamés par les instituts de formation en soins infirmiers. Des frais inexistants jusqu'à présent, mais qui, pour certains établissements, viennent pallier la suppression des concours d'entrée et les revenus qui allaient avec. Maxime Debs.
Avant, pour intégrer un établissement de formation pour infirmiers, il fallait multiplier les concours, débourser 100 euros à chaque fois pour chaque IFSI dans chaque ville où vous vouliez candidater. Supprimer ces concours devait donc permettre aux étudiants de faire des économies. Mais en cette rentrée, certains établissements rusent. Parfois, ce sont les blouses blanches fournies gratuitement avant qui maintenant sont à la charge des étudiants autour de 80 euros. L'accès au Wi-Fi peut aussi être parfois facturé aux apprentis infirmiers qui l'apprennent souvent au dernier moment, ce que déplore Bilal Latrèche, président de la FNESI, le syndicat qui défend leurs intérêts.
Ils se retrouvent au pied du mur, ils se retrouvent sans aucune autre option au final. Parce qu'en ayant validé cette proposition, ils ont renoncé à tous les autres vœux. Et là, on leur dit, écoutez, il va falloir payer ses frais. En leur disant, si vous ne payez pas, vous ne serez pas admis à l'IFSI.
Les syndicats dénoncent un chantage qui peut coûter très cher aux étudiants. En face, on répond que les subventions publiques sont en baisse, que l'argent qui était encaissé avant à chaque inscription au concours n'est plus là. Certes, mais ce n'est pas aux étudiants de payer pour ça, répondent les syndicats.
Aujourd'hui, on appelle tous les étudiants à ne pas payer ces frais complémentaires illégaux. Entrer dans l'enseignement supérieur, c'est payer 170 euros de droits d'inscription et 91 euros, et pas un centime de plus.
Et pour en finir avec ces pratiques, les syndicats demandent au gouvernement de tout faire pour les encadrer.
7h37, le journal Charlotte Piret. Charlotte, 130 détenus en grève de la faim au Caire.
Un mouvement de grande ampleur pour dénoncer des conditions de détention cruelles et inhumaines. L'ONG Amnesty International évoque des prisonniers frappés parfois à l'aide de pistolets électriques, privés de visite, des cellules surpeuplées, infestées d'insectes et où les températures dépassent les 40 degrés. Débattre sans toutefois trop s'affronter, exercice délicat auquel se sont livrés certains candidats à l'investiture démocrate aux États-Unis. Ils sont une vingtaine à se succéder sur deux jours face aux caméras et aux électeurs. Avec en tête d'affiche Bernie Sanders et Elizabeth Warren, figure de l'aile gauche du parti. Ils sont les mieux placés derrière le favori de cette course à l'investiture, Joe Biden. Alors ils ont bien compris et appliqué le dicton « l'union fait la force », Loïc Loury.
Entre Bernie Sanders et Elizabeth Warren, de bataille il n'y aura pas eu. Les deux candidats progressistes au centre du plateau sont sur la même ligne politique et ils le font savoir.
On ne va pas résoudre les problèmes urgents auxquels nous sommes confrontés avec de petites idées et un manque de caractère.
Je commence à être fatigué de ces démocrates effrayés par les grandes idées. Les républicains n'ont pas peur des grandes idées.
De grandes idées face à la mollesse des modérés sur l'assurance maladie, le contrôle des armes ou la dette étudiante, les deux candidats sont en phase contre les puissances de l'argent et la corruption.
Notre plus gros problème à Washington, c'est la corruption, les corporations géantes qui ont mis la main sur notre gouvernement et le tiennent à la gorge.
Face à eux, la jeune garde peine à exister, Pete Buttigieg notamment, qui semble ici, sans le vouloir, apporter de l'eau à leur moulin progressiste.
Si nous soutenons un programme très à gauche, ils diront que nous sommes des fous socialistes. Et si c'est un programme conservateur, vous savez quoi? Ils diront que nous sommes des fous socialistes.
Reste que Sanders et Warren au coude à coude dans les sondages sont loin derrière Joe Biden, modéré par excellence. Face à lui, l'idée d'une alliance entre les deux leaders de l'aile gauche commence donc à faire son chemin chez les démocrates. New York, Loïc Loury, France Inter.
Aux États-Unis encore, on se souvient des images particulièrement choquantes de ces enfants en pleurs, parfois très jeunes, derrière des clôtures grillagées, séparés de leurs parents car entrés illégalement sur le territoire américain. Le tollé général provoqué par ces images avait conduit Donald Trump à ordonner la réunion des familles, en dépit de sa volonté de tolérance zéro. Seulement voilà, selon le groupe américain de défense des droits civiques ACLU, un an plus tard, 900 enfants migrants sont toujours séparés de leurs parents. 20% d'entre eux ont moins de 5 ans. Comment passe-t-on du babubibobu au premier mot, du gazouillis au babiment, du babiment à un langage intelligible, domaine d'études complexe que celui de l'acquisition de la parole? Les linguistes de l'université de médecine de Vienne en Autriche s'y sont penchés, enregistrement sur l'activité cérébrale à l'appui, et ils ont découvert que tout se joue dans le ventre de la mère dès la fin de la grossesse. Sophie Bécherel.
Pour certains, ce sera à 1 an, pour d'autres à 18 mois. Einstein à 3 ans. Les tout premiers mots, c'est toute une histoire et pour cause, leur acquisition est mystérieuse. Une équipe de neurolinguistes de l'hôpital général de Vienne lève un coin du voile et révèle que les aires du cerveau qui reconnaissent et traitent les sons de la parole commencent à se spécialiser à un stade très précoce lors des 3 derniers mois de grossesse. C'est à ce moment-là que l'appareil auditif se développe. Ainsi, in utero, le fœtus commence à apprendre à différencier à travers le liquide amniotique la voix de sa mère des autres sons comme la musique ou le brouhaha ambiant. Les aires spécifiques du cortex cérébral dédiées au langage s'activent. Les chercheurs montrent que les bébés nés à terme sont capables, le lendemain de leur naissance, de distinguer les sons de la parole des autres sons. Les enfants prématurés n'ont pas cette capacité, ils ne l'acquièrent qu'une fois qu'ils ont atteint leur date théorique de naissance. Voilà qui pourrait être utile au service de néonatologie afin d'optimiser l'environnement acoustique offert aux prématurés. Il s'agit, même au milieu du bruit des couveuses et des machines de survie, de leur faciliter plus tard l'acquisition du langage.
Sophie Bécherel, c'était il y a une semaine, les thermomètres au bord de l'implosion, les nuits qui ne fraîchissaient plus, la canicule envahissait toute la France, toutes. Pas tout à fait, il y a bien eu cette petite zone d'irréductible, l'îlot de fraîcheur normand quand le reste de l'Hexagone suffoquait. Alors les vacanciers ne s'y trompent pas et affluent en masse. Simon de Faucampré l'a vérifié à Étretat.
Camping Étretat, bonjour. Bah, il me reste que 3 places, donc il faut venir maintenant parce que je ne réserve pas.
Et c'est comme ça depuis 2 mois à Étretat. Stéphanie est régisseuse du camping municipal.
On a 20 places de tente et le restant en camping-car et caravane. Depuis la fin juin, on est complet tous les jours. 9h, les gens font déjà la queue pour avoir les emplacements.
Dans ce camping familial de 72 emplacements au total, il y a surtout des habitués. Mais cette année, on voit des nouvelles têtes. Elles viennent prendre un peu de frais, un peu l'air, elles se posent et parfois elles s'attardent.
Au début, on était venus pour 4-5 jours et puis bah, là, ça va faire 2 semaines.
Première fois ici pour Jean et Claudine, ils sont de Dunkerque. Ils font toute la côte normande et bretonne en camping-car. Pour eux, ça vaut toujours mieux que le sud.
Ici, vous allez sur la plage, là. Il y a de la place tout au long. Vous allez sur le Biscarros, vous devez bouger les jambes pour poser votre serviette. Hein.
Alors vous avez la route, vous êtes fatigué, bon, vous arrivez là-bas, il n'y a plus de place, on est tous l'un sur l'autre, on est aussi bien ici. Oh, oui.
Le vent frais, les embruns normands et parfois les 10-15 degrés de moins qu'ailleurs. Pour Judith et Fernand, le choix a été fait il y a longtemps.
Depuis 20 ans, bon, bah, on a la chance de pouvoir venir ici tous les ans. Il y a quand même eu de la chaleur dernièrement, mais ce qui est agréable ici, c'est qu'il y a de l'air, c'est pas étouffant.
C'est ça voilà. Qui maintient madame dans la bonne santé.
Les Français qui plus généralement ont préféré la France pour leurs vacances de ce mois de juillet.
C'était le journal de Charlotte Pirel.